voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Le lundi 22 janvier 2007, l'abbé Pierre rendait son âme à Dieu. Une messe officielle de funérailles à Notre-Dame de Paris, le vendredi 26 janvier, rassemblait 300 compagnons d'Emmaüs, de nombreuses personnalités et des milliers de personnes pour un dernier adieu. De son vrai nom Henri Gourès, il prit le nom d'abbé Pierre en 1942 pour la résistance dans le maquis de Chartreuse et du Vercors. Il aimait rappeler aussi son engagement chez les scouts, où il était surnommé « Castor méditatif », anticipation prophétique pour celui qui allait bâtir et construire une communauté internationale contre la pauvreté, la communauté d'Emmaüs. Pour honorer la mémoire de l'abbé Pierre, Canal Academy vous propose trois lectures. La première est le discours prononcé par Jean Cluzel, alors secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, au printemps 2004. L'Académie avait en effet décerné le grand prix humanitaire Louis D à la Fondation Abbé Pierre. La seconde lecture est la réponse que fit l'abbé Pierre aux académiciens lorsqu'il fut lauréat du Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques en juin 1989. Et la troisième lecture sera l'homélie du cardinal Barbarin pour les obsèques de l'abbé Pierre le vendredi 26 janvier 2007. Jean Cluzel, bonjour.
Bonjour.
Au printemps 2004, vous remettiez au nom de l'Académie des sciences morales et politiques le Grand Prix humanitaire Louis D à la Fondation Abbé Pierre, un prix largement doté de 750 000 euros. Mais vous n'aviez pas attendu 2004 pour soutenir l'abbé dans sa lutte contre la pauvreté. En effet, dès après l'hiver 54, vous avez répondu à son appel en soutenant la carte de l'IRAM, Institut de Recherche et d'Action contre la Misère du Monde. Rappelez-nous en quelles circonstances.
Oui, nous avions, avec quelques amis, créé le club Position en janvier 1955, club qui poursuit toujours ses activités, Recherche pour l'Action. L'abbé Pierre avait donc lancé cette idée de lutter contre la misère, et son IRAM, dont vous venez de parler, avait examiné tous les supports possibles, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la pub. Et les responsables d'Emmaüs songèrent aux cartes routières qui, chaque année, sont dans notre pays achetées par centaines de milliers d'exemplaires. Deux départements ont été choisis comme départements pilotes, Lille et Vilaine d'une part, et l'Allier d'autre part. Alors, Position s'est associée. Et notre bulletin numéro 15, que vous pourrez rechercher dans les archives si vous le voulez, expose la méthode d'action retenue. 10 000 cartes ont été diffusées en 3 mois, des conférences organisées dans les principaux centres du département, des articles remis à la presse, etc. Et ce bulletin numéro 15 a reproduit un message de l'abbé Pierre qui n'a rien perdu de son actualité puisque c'est ce qu'il disait quelques semaines encore avant sa mort.
C'était une belle manière de soutenir l'action de l'abbé Pierre. Jean Cluzel, revenons à la remise du Grand Prix humanitaire Louis D à la Fondation Abbé Pierre et je vous invite à relire le texte du discours que vous aviez prononcé ce jour-là.
Tout au moins pour l'essentiel, je vous remercie. J'étais parti de cette idée que la philanthropie est, depuis sa création, il y a 2 ou 3 siècles, la philanthropie académique s'entend, une tradition de notre maison. En effet, l'Institut de France a pour mission essentielle de promouvoir les sciences, les lettres, les arts et de les diffuser aussi profondément que possible dans la nation. Mais mes éminents ancêtres n'ont jamais oublié de porter attention à l'un des obstacles majeurs à cette élévation morale et intellectuelle. Cet obstacle s'appelle la misère. La misère qui englue, la misère qui paralyse, la misère qui atteint l'être humain dans sa dignité. Cette attention s'est traduite dans les faits de multiples manières, par la réflexion, par l'enquête tout d'abord. Que l'on se souvienne du rapport de Louis-René Villermé, c'était en 1841, il y a bien longtemps, ce rapport portait comme titre « L'état physique et moral des ouvriers des manufactures de coton, de laine et de soie ». C'est ce rapport, il faut s'en souvenir, qui a permis de faire voter les premières lois sociales françaises sur le travail des enfants. Alors par la suite, L'attention prit aussi la forme de l'aide directe aux personnes en détresse, grâce, c'était au XIXe siècle, aux dons de grandes familles bourgeoises. Les temps ont changé. La misère est toujours là. Loin d'avoir été éradiquée, elle a pris des formes nouvelles. Conscient de cette détresse toujours présente, les fondateurs qui ont fait confiance à l'Institut de France, et notamment une famille qui veut garder l'anonymat, c'est pourquoi on les appelle Louis D, ces fondateurs ont décidé que tous les deux ans serait remis un grand prix humanitaire d'un montant important, puisqu'il s'agit de 750 000 euros. Attribuer un tel prix est une lourde responsabilité que M. le chancelier Pierre Messmer m'avait à l'époque demandé de partager avec un comité de sélection et de le présider. Les noms, je vais vous les dire quand même parce qu'ils sont importants. Il s'agissait de Jean-Pierre Caillard, le patron du groupe de presse Centre France, La Montagne et Clermont-Ferrand. Michel Didier, professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Patrick Hainaut, ambassadeur chargé des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères. Claude Maluret, bien connu, l'ancien ministre, celui qui a été l'un des créateurs de Médecins sans frontières et nobélisé, actuellement maire de Vichy. Henri Pijat, le président de l'Institut international de la communication, Yves Pouliquen de l'Académie française, et maintenant en plus président de la Fondation Saint-Gilles-Polignac. Madame Michèle Puy-Bassé, conseiller d'État, président de la commission d'accès aux documents administratifs. Alors, pourquoi avons-nous remis ces 750 000 euros? Eh bien, nous l'avons remis pour créer des pensions de famille inventées par les amis de l'abbé Pierre. En définitive, si notre décision s'est portée sur le projet de création de pensions de famille, c'est parce que ces maisons, car il s'agit bien de maisons, j'y reviendrai, étaient destinées à abriter les exclus. Ce dossier avait été présenté par la Fondation Abbé Pierre. Après de minutieuses études, il nous est apparu que ces pensions de famille, reprenons le titre puisque c'est comme ça qu'on les appelait et qu'on les appelle toujours, que ces pensions de famille n'appartenaient pas à la catégorie du logement d'urgence, dont le but est d'offrir, pour une courte durée, un toit aux plus démunis. En effet, de telles initiatives sont intéressantes, mais elles ne règlent pas au fond le problème de la précarité. Alors que, dans les pensions de famille de l'abbé Pierre, au contraire, des appartements sont mis à la disposition de personnes désocialisées, sans logement, sans travail régulier, en rupture avec tout réseau familial ou social susceptible de leur venir en aide. Et j'ajoute, dont la mise à disposition, je dis la mise à disposition de ces pensions de famille, n'est pas limitée dans le temps. À elle seule, cette mesure rassure ceux qui en sont bénéficiaires, eux dont la vie dans la rue a été marquée par une méfiance et une crainte de tous les instants. Ces maisons, pensions de famille donc, tenues et animées par un couple d'hôtes, recréent un lien social et redonnent du sens à la vie de ceux qu'elles abritent. La possession d'un appartement rassure, elle permet de redonner goût à la vie. De plus, elle permet l'insertion dans une vie partiellement en communauté et leur permet de créer de nouveaux liens affectifs. C'est pourquoi le projet, donc au printemps 2004, a été choisi par cette commission de l'Institut de France, parce que c'était un projet innovant, parce que c'est un projet profondément humain et enfin parce qu'il est efficace dès sa réalisation et pour longtemps. Grâce au montant de ce prix, deux pensions de famille ont pu être construites, l'une près de Metz, l'autre près de Marseille, construites et ouvertes. Ensemble donc, nous avons mis en pratique le proverbe chinois « Un seul voici, vaut mieux que quantité d'incantations telles que le ciel t'assiste ». C'était l'abbé Pierre.
Merci. Après la lecture de ce discours de Jean Cluzel, discours qu'il a bien voulu venir relire à l'antenne de Canal Académie, nous vous proposons une deuxième lecture. La réponse de l'abbé Pierre aux académiciens qui venaient de le désigner comme lauréat du Grand Prix de l'Académie des sciences morales et politiques. On remonte un peu le temps, puisque c'était cette fois-ci le mardi 6 juin 1989. L'Académie avait tout d'abord rappelé le parcours de l'abbé Pierre, son courage dans la résistance, son engagement politique et son œuvre, la communauté d'Emmaüs. Voici sa réponse, elle est lue par Fernand Guillot.
Vous avez voulu étendre votre considération au-delà d'une personne, à une institution. Les hommes et les femmes qui constituent cette institution, le mouvement Emmaüs International, ressentent à cet égard comme une confirmation de leur responsabilité provocatrice. Tous ensemble, rassemblés parce qu'ils ont le plus en commun, l'expérience de beaucoup de souffrances les plus diverses, ils savent qu'ils doivent ne pas cesser de se faire voix des sans-voix, parole osant dire ce qui trop souvent ne se dit pas, osant faire entendre cette parole à tous, des plus humbles jusqu'à ceux qui, à travers le monde, se trouvent investis des plus hautes charges. Ce soir, ils désirent que par une voix, dans cette rencontre que, messieurs, vous avez suscitée, soit entendue de vous et en écho de partout, une exigence qu'ils ressentent dramatiquement, comme la ressentent des multitudes. Ne vivons-nous pas un temps sans précédent dans tout ce que les sciences historiques ont pu nous faire connaître du passé des peuples? Voici que d'immenses puissances, accoutumées à vivre dans tant de peurs l'une de l'autre qu'elles ne savaient chercher à se rassurer qu'en se ruinant réciproquement pour accroître la peur autour d'elles, décident d'accepter, chacune chez soi, un contrôle réel par l'autre, et certes, encore faiblement mais réellement, commencent à briser leurs flèches et leurs arcs. Est-ce le début d'un espoir de voir reculer leur risque d'anéantissement de tous dans une troisième guerre universelle? Et si c'est cela, n'est-ce pas, par contre-coup, l'espoir de voir s'éteindre, une à une, tant d'atroces guerres locales, aussi souvent se devinent les influences, directes ou non, des grandes puissances? Oui, ce fait marque notre temps plus que tout. Mais un autre fait, d'égale gravité, se révèle à nous de par les moyens universels de communication. Saurons-nous à temps le regarder en face? Nous sommes en guerre, la terre entière, toute la terre ensemble, agressée par la misère déchaînée partout. Nous connaissons les misères du tiers-monde, nous en parlons beaucoup, jusqu'à en rendre banal les mots. Nous savons bien que, privés d'informations statistiques autorisées, les misères existent dans l'ensemble des pays dits de l'Est. Mais nous, occidentaux, nous savons, bien que privés d'informations statistiques autorisées, les misères existent dans l'ensemble des pays dits de l'Est. Mais nous, occidentaux, parce que chez nous la majorité numériquement n'est pas dans la misère, jusqu'à quand resterons-nous quasi indifférents devant la terrible quantité de nos minorités en détresse, les 30 millions d'Américains reconnus officiellement dans la misère et les 44 millions d'Européens dans la misère sur les 320 millions de ceux qui vont bientôt, Europe unie, être la plus importante puissance économique du monde? Jusqu'à quand, scandaleusement, resterons-nous tant patients de la souffrance des autres? La faim, le manque d'emploi et de logement et d'école et de soins, cet ennemi aux cinq visages, c'est tous les peuples, de toutes les races, qui l'attaquent. Sommes-nous décidés à tout mobiliser pour la victoire ensemble contre lui? La victoire dans cette autre guerre, pour une fois guerre que l'on peut, que l'on doit appeler belle. Voici que toutes les nations sont attaquées. N'est-ce pas face à l'ennemi que se créent et s'affirment le plus magnifiquement les patriotismes? Devant cet ennemi universel, avec lequel ce serait crime et folie de croire pouvoir, avec indifférence, laisser se renouveler ce dont un passé encore si récent nous a montré les effets de désastre, ce dont le souvenir restera sinistrement inscrit dans notre histoire sous le nom de drôle de guerre. Comment aider à ce que commence de naître le patriotisme mondial qui rendrait l'espérance à nos jeunesses? Il y a 40 ans, l'horrible guerre finit. ayant eu à ouvrir auprès de Lord Barrytor, le fondateur de la FAO, dont je venais d'être élu l'adjoint comme président du comité exécutif du mouvement universel pour une confédération mondiale, ayant eu donc à ouvrir un premier congrès, je m'écriai, porteur de ce dont tous nous avions le cœur brûlant, nous avons assez d'être les partisans de causes plus petites que celles de l'univers. Voici que la France, messieurs les académiciens, se trouve venue au cœur de la commémoration du 200e anniversaire de sa grande révolution, où voulait s'exprimer le généreux désir de liberté, égalité, fraternité de tout son peuple, proclamant une déclaration des droits de l'homme que, désormais, rien, pas même les inoubliables atrocités qui bientôt allaient la déchirer, ne pourraient détruire. Ce temps-là n'est-il pas celui où tous ensemble, gens de toutes opinions, nous devons, francs, lucides et courageux, fixer nos regards sur le bien et le mal de l'un des laits les plus précieux que nous avons reçus d'alors. Le lait de notre hymne national à la musique, si exaltant et fier qu'il est connu du monde entier. Mais porteur de mots, qui, à travers l'enchaînement des événements vécus depuis, sont devenus imprononçables. Après les crimes interraciaux, prescrits comme des idéaux, et le monde est loin d'être guéri partout de cette honte, quel maître d'école, quel père, quelle mère peuvent encore imaginer devoir apprendre à leurs enfants à haïr et à rêver d'abreuver notre terre de sang impur. Il y a quelques mois, je tenais ces propos dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, devant 2000 travailleurs sociaux venus de toute la France. Leur acclamation fut interminable. Depuis, beaucoup d'appels, et ne furent pas moins nombreux ceux venant des anciens combattants dont je suis, n'ont cessé de me presser, de trouver comment, sous l'autorité de qui, faire aller de l'avant ce projet. Tous réclament que soient donnés à notre Marseillaise des mots qui n'évoquent de guerre, et avec passion que, contre les 5 misères mondiales des sans pain, sans toit, sans travail, sans école et sans soins. Oui. Ce ne serait pas rien d'offrir aux nobles passions du monde qui vient un hymne à leur ampleur. Il est vrai que ce geste exigera la consultation de la nation par référendum, puisque l'article 2 de notre Constitution dit que l'hymne de la République française est la Marseillaise. Mais une telle consultation pourrait s'effectuer sans aucun frais si, à l'occasion d'une prochaine consultation électorale nationale, simplement était joint un bulletin disant « Approuvez-vous tel texte ?» ou « Quel texte choisissez-vous ?» entre plusieurs qui auraient été jugés répondre à notre âme nouvelle. Texte jugé convenir par quelle haute et sage autorité morale et politique ? Depuis des mois, anxieux, je me le demandais. Votre appel, messieurs les académiciens, à me trouver parmi vous ce soir, n'a-t-il pas apporté la réponse attendue de tant de Français ? Messieurs les académiciens, totalement conscients d'accomplir ici ce soir le souhait de multitudes, je dépose entre vos mains les quelques suggestions de textes qui m'ont été adressés, certains déjà de haute qualité, certains élargissant le regard à la dimension de l'Europe, d'autres à celle de la Terre et l'humanité entière. De tout mon cœur, je vous le demande, prenez à cœur pour l'honneur de votre Académie des sciences morales et politiques, de faire s'appliquer votre expérience, votre sagesse, votre humanisme à l'aboutissement de ce grand dessein. Dans ma foi en Jésus-Christ, je ne peux cesser d'entendre l'éblouissant appel « Père, qu'il soit un comme nous sommes un ». Messieurs, merci d'aider l'humanité à faire un pas non vers l'unité qui confond, mais vers l'union qui personnalise. veuillez accepter que je vous remette en grande espérance ce vœu et ces documents.
En troisième lecture, toujours en hommage à l'abbé Pierre, Canal Académie vous propose le texte de l'homélie du cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, pour les obsèques célébrées à Notre-Dame le vendredi 26 janvier 2007. C'est le cardinal lui-même qui a offert ce texte à Canal Académie et c'est Fernand Guillot qui en assure la lecture.
Emmaüs, le nom d'un village qui résume toute la vie et l'œuvre de l'abbé Pierre. Emmaüs, c'est un chemin. Emmaüs, c'est d'abord la page d'évangile que nous venons d'entendre. Elle raconte comment un chemin de tristesse peut devenir une promesse d'espérance. Deux compagnons découragés ont quitté Jérusalem. Tandis qu'ils s'éloignent de la ville sainte, un inconnu les rejoint, s'approche, les interroge et commence à leur parler. Quelque chose s'éveille en eux et les bouleverse intérieurement. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'ils nous parlaient sur la route, diront-ils, lorsque leurs yeux s'ouvriront et reconnaîtront Jésus ressuscité. Dans cet épisode du soir de Pâques, l'abbé Pierre a vu toute sa mission, l'aventure d'Emmaüs. « Georges, lance-t-il un jour à son premier compagnon, viens, toi, qui es tout cassé, trouvons-en un autre comme toi, et nous irons ensemble soulager un troisième. » Quelques années plus tard, la France a découvert l'épopée des chiffonniers d'Emmaüs. On les regardait comme des exclus ou des blessés de la vie. Mais en vérité, ils étaient devenus des semeurs d'espérance. Il avait suffi que quelqu'un fasse jaillir en eux la source pour que toute leur humanité soit à nouveau irriguée. Où trouvait-il son énergie, ce prêtre à la santé fragile, constamment malade depuis son enfance? La prière, la conversation quotidienne avec Jésus étaient le secret du dynamisme intrépide de l'abbé Pierre. Dès son enfance en famille, il avait appris à boire à cette fontaine d'eau vive. Durant les 7 années de sa vie chez les Capucins, il reçut une solide formation spirituelle dans l'esprit de saint François d'Assise. Plus tard, il voulut se retirer dans le silence et vécut 8 ans au milieu des moines à l'abbaye de Saint-Vendry, près d'Esteville, l'endroit où reposent ses premiers compagnons, qu'il va rejoindre ce soir. On ne peut pas s'engager dans le service des pauvres et aller au-devant de toutes les misères avec un tel enthousiasme jusqu'à 94 ans si l'on ne va pas chercher cette force venue d'ailleurs. Que de fois, quand le fardeau se faisait trop lourd, ses proches l'ont entendu dire « Laissez-moi ». Il entrait alors dans un dialogue dont il ne nous a livré que quelques mots « Ô Dieu, toi qui es, sois ». Ce Dieu auquel il s'adressait avec une confiance d'enfant, Jésus lui révélait qu'il est amour. L'appel était là. Il fallait donc repartir sur le chemin, témoigner de cet amour et le partager avec les autres. Emmaüs, c'est une maison. Emmaüs, c'est aussi une maison, une auberge. Elle est comme un refuge pour tous ceux que les difficultés de la route ont épuisés ou égarés. Les compagnons vont lutter ensemble pour panser les blessures. Restituer à l'homme sa dignité, dit l'abbé Pierre. Voilà le grand secret. Pour cela, l'itinéraire est simple. Bâtir une maison, retrouver le sens et le goût du travail, gagner un salaire pour assurer sa vie et sans tarder, venir en aide à ceux qui sont dans une misère encore plus grande. Toujours penser aux autres d'abord. Qu'on me permette de raconter une anecdote, moment marquant de son enfance et de sa vie de famille à Lyon. Un dimanche, le jeune Henri, il n'avait pas encore 10 ans, avait été puni et privé d'une sortie chez des cousins. Quand ses frères, en rentrant le soir, racontent la joie et les jeux de l'après-midi, il leur répond « Que voulez-vous que ça me fasse? Je n'y étais pas. » « Alors, dit-il, j'ai vu le visage de mon père s'assombrir. Il m'a pris à part et il m'a dit « Mais Henri, et les autres ?» il ne compte pas pour toi ? Cette phrase qu'il n'a jamais oubliée marque le début de sa lutte acharnée contre toute forme d'égoïsme, le sien et celui des autres. Béni soit Dieu pour ce père de famille nombreuse qui fait attention à chacun de ses enfants et qui, par amour, lutte contre le péché dès qu'il le voit poindre dans leur cœur. On peut dire que les autres en ont eu de la place dans la suite de sa vie. Tout est parti d'une pauvre baraque trouvée à Neuilly-Plaisance en 1947. On la retape et les premiers compagnons arrivent 2 ans plus tard. Sur la porte, ils posent une pancarte « Emmaüs ». Au fil des ans, les foyers vont se multiplier. À Charenton, où l'on a récupéré une ancienne chapelle, l'abbé loge au 10e étage d'un immeuble voisin et vient souvent manger avec les compagnons. Durant l'hiver 54, l'insurgé de Dieu réveille la France entière de sa torpeur par ce cri devenu célèbre. « Mes amis, au secours ! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol !» Le ton de sa voix, les images de ce grand moment restent gravées dans nos mémoires. Un peuple tout entier, grâce à l'abbé Pierre, est entré dans l'insurrection de la bonté. Tout homme a droit à un logement décent où il puisse vivre avec les siens. 50 ans plus tard, l'aventure continue et le combat est loin d'être gagné. L'abbé Pierre ne l'abandonnera jamais. Il a communiqué son élan à beaucoup d'autres. L'an dernier encore, à 93 ans, il a repris son bâton de pèlerin pour aller à l'Assemblée nationale supplier les députés d'agir en faveur des mal logés. Non seulement il a toujours défendu les pauvres, mais il a vécu lui-même comme un pauvre. Dès l'âge de 19 ans, il renonce à sa part d'héritage et distribue tous les biens qui lui viennent de sa famille. Député de Meurthe-et-Moselle, au lendemain de la guerre, il donne chaque mois son indemnité parlementaire à ceux qui manquent de tout. Jusqu'au bout de sa course, malgré sa notoriété, il a gardé la pauvreté. Cela garantit l'authenticité de son action. Mais c'est encore peu de choses pour lui. Si ce geste n'est pas habité par une lumière plus profonde, il ne vaut rien du tout. C'est lui qui a souhaité nous faire entendre ce matin le brûlant enseignement de saint Paul sur la charité. « J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. » Emmaüs, c'est un repas, une révélation et un nouveau départ. Emmaüs, enfin, c'est un repas. Dans les foyers, on trouve une table ouverte pour une nourriture simple ou un repas de fête. Chacun a sa place, la conversation est animée et en hiver, le café chaud est apprécié de tous. Grand moment de la vie quotidienne et fraternelle. Depuis quelques années, pour la fin de sa route, Alfortville, cité de la banlieue parisienne, était tout étonnée et heureuse d'accueillir le Français le plus estimé de ses compatriotes. C'est là qu'il a été accompagné jusqu'au bout. Dans quelques pièces, à côté du centre international de ses compagnons, il a su garder la douce lumière d'Emmaüs en attendant l'heure de la rencontre. L'évangile d'Emmaüs nous fait comprendre que nous sommes aussi attendus pour un autre repas. Le Seigneur se met à table avec nous. Il prend le pain, le bénit et nous le donne. C'est un geste qui résume toute la mission du Christ et l'ambition de l'abbé Pierre. Rien n'est plus utile à l'humanité que ce partage concret et fraternel. À ce repas du Seigneur, il a toujours été fidèle. Chaque soir, à l'heure dite, il célébrait la messe. Tout était préparé avec soin dans sa chambre. La table installée, un calice, quelques hosties et son livre usé qu'il avait annoté à toutes les pages. Ce repas est le moment d'une révélation. À Emmaüs, pendant que le pain est rompu, les yeux des compagnons s'ouvrent et ils reconnaissent le Seigneur. Il est vraiment ressuscité. Désormais, la victoire de l'amour contre toutes les tristesses de ce monde est assurée. Mais le Christ disparaît, ses disciples sont passés de la désillusion à l'enthousiasme. Aussitôt, ils partent sur la route, comme des messagers d'espérance. C'est le repas que nous vivons en ce moment à Notre-Dame de Paris, et l'abbé Pierre y prend part mystérieusement. Il attendait la mort dans la paix et avec une grande foi. On peut dire qu'il la désirait. À la fin du « Je vous salue Marie », il préférait dire « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la rencontre ». Nous prions ce matin pour que Dieu lui accorde son pardon et lui donne de vivre l'immense joie de cette rencontre. Au seuil de la maison où Jésus est parti nous préparer une place, notre Père l'attend et lui ouvre les bras. Merci, Seigneur, de nous avoir donné un tel frère. Merci, l'abbé Pierre, de nous avoir donné un tel exemple. Vous disparaissez et nous, comme les compagnons d'Emmaüs, nous repartons d'un bon pas aujourd'hui pour témoigner de cet amour et servir les autres jusqu'à notre dernier souffle.